Nous poursuivons ce matin notre voyage dans le livre de Josué. Le titre du message ce matin, c'est « La plus grande bataille de Josué ». C'est tiré de Josué 11. Nous allons lire le verset 6 ce matin. Josué 11, 6. « L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car demain, à pareille heure, moi, je les livre tous, blessés à mort devant Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars par le feu. » Prions. Père éternel, loué sois-tu pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité absolue, Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de ce que dans ces temps de la fin que nous sommes, Seigneur, tu nous as parlé par ton Fils, Seigneur, et nous avons toute ta parole, Seigneur, d'un couvert à l'autre, Seigneur, qui nous mentionne, qui nous parle de la grandeur de Jésus-Christ pour son œuvre parfaite qu'il a accomplie pour nous. Alors ce matin encore, Seigneur, viens nous instruire, Seigneur Dieu, ouvre nos oreilles spirituelles, nos yeux, afin que nous puissions contempler, Seigneur, ta gloire, ta majesté, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Un pasteur raconte que durant un vol d'avion, il a parlé à un homme qui disait qu'il avait tourné le dos à la foi chrétienne. Il disait, « Je l'ai essayé et continue de dire qu'il y a beaucoup de choses concernant le christianisme qu'il ne peut même pas recommander. » Ensuite, il continue sans tarder d'ajouter, « Lorsque j'ai commencé vraiment à étudier et examiner les choses, j'ai réalisé qu'il y avait tant de choses que je ne pouvais accepter, tellement de questions que je ne pouvais avoir de réponse. » Et plus il parlait, il devenait clair qu'il avait un problème avec Dieu lui-même, en particulier avec sa souveraineté, sa justice et sa sainteté. À un point de conversation, je lui ai même dit, « Vous avez une vue négative de Dieu, n'est-ce pas? » Et il était d'accord. Cela ne devrait pas nous surprendre. Tous les pécheurs le font par nature. Cela explique la suppression de la vérité que nous voyons dans Romains 1. Cela explique aussi la pléthore de fausses religions et de cultes qui jaillissent de nos jours. Lorsque les hommes cachent et rejettent le vrai Dieu, ils substituent leur propre Dieu avec un petit « d » qui sont de beaucoup inférieurs et plus faciles à vivre avec. C'est simple et clair. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu que les pécheurs aiment naturellement. En fait, le plus fort des langages est utilisé dans la Bible pour décrire le cœur de l'homme envers Dieu. Il a un esprit qui est inimitié contre Dieu. Jésus a dit, « Le monde me hait. » La haine du monde et son inimitié sont souvent exprimées par des attaques contre les Écritures. Et cela a du sens, n'est-ce pas? Le monde utilise les propres paroles de Dieu pour attaquer le caractère saint de Dieu. Peut-être, vous savez probablement ceci, que le livre de Josué est devenu un terrain de chasse favori pour les critiques, pour cette raison en particulier. Qu'est-ce exactement que le récit concernant Josué, qu'est-ce qu'il y a dans le récit concernant Josué qui provoque les pécheurs? Eh bien, Josué nous laisse voir le côté saint de Dieu. Le côté juste de Dieu. Il nous laisse savoir que Dieu est tolérance zéro avec le péché. Vous vous rappellerez cet homme Acan au chapitre 7, lorsqu'on est passé par le chapitre 7, il a commis un péché et il a été détruit avec toute sa famille en raison de ce péché. Mais il y a plus dans le livre de Josué qui dérange les pécheurs. C'est ce que nous pouvons même appeler les sections rayon X de violence Quelques-uns des chapitres les plus brutaux, horribles, teintés de sang, sont trouvés dans le livre de Josué. Du chapitre 6 au chapitre 11 de Josué, des nations entières sont massacrées. Ce qui semble être un nettoyage ethnique ou un génocide. Par exemple, si nous retournons à Josué 6, 21, il nous est dit, ils vouèrent à l'interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. Dans Josué 8, 21, nous y lisons pratiquement la même chose. Josué et tout Israël virent que les hommes de l'embuscade avaient pris la ville et que la fumée de la ville montait. Ils firent volte-face et battirent les gens de Haï. Au chapitre 26, au verset 26 du même chapitre 8, Josué ne ramena pas la main qu'il étendait avec le javelot avant d'avoir voué à l'interdit tous les habitants de Haï. Josué 10, 20, nous lisons, « Après que Josué et les fils d'Israël eurent achevé de leur porter un coup terrible au point de les exterminer. » Lorsqu'il mentionne « voué à l'interdit », ça veut dire « exterminer tout ce qu'il y avait là ». Ainsi donc, page après page, nous lisons concernant des choses que nous nous attendrions qui prendraient place sous un régime cruel de dictateurs comme Hitler ou Staline ou plusieurs autres qui ont marqué l'histoire. Mais nous les voyons ici, dans notre Bible, quelle en est la différence? Eh bien, plusieurs choses dont nous avons besoin de nous rappeler lorsque nous lisons ces portions de la parole de Dieu. Entre autres, un, c'est Dieu qui commande les massacres. Ces gens étaient réellement les ennemis de Dieu. Les Cananéens étaient les ennemis de Dieu. Une autre chose, nous devrons comprendre ceci. À la lumière de Genèse 15, 16, les Cananéens avait atteint la dépravation à son comble. Comme Sodome et Gomorre, démoniaque, adoration licencieuse et même les sacrifices d'enfants. Dans Genèse 9, Dieu a maudit Canaan. Dans Deutéronome 20, Dieu a prophétisé la destruction en raison de l'abondance de péché et de l'iniquité. La justice sainte de Dieu punit les pécheurs et Dieu utilise l'épée de Josué. Nous avons aussi besoin de nous rappeler ceci lorsque nous lisons ces chapitres, qui est le chapitre de 6 à 11, qu'à travers tout le livre, Dieu offre réellement aux pécheurs la miséricorde, l'opportunité de se repentir. Et retournant au chapitre 2, vous vous rappellerez de cette femme, Rahab, elle s'est repentie, elle a saisi la miséricorde de Dieu. Ainsi, nous devons nous rappeler tout cela lorsque nous lisons ces chroniques entachées de sang. Josué et son armée sont sous les ordres, sous le commandement du roi des rois, lorsqu'ils prennent leurs épées et détruisent les Cananéens. Donc ce matin, nous allons sauter sur le champ de bataille, encore une fois, et dans l'ordre des choses, c'est la dernière bataille majeure que nous allons voir. Alors, on va développer cela sous trois points. Les défis auxquels Josué a fait face, le réconfort que Josué a reçu et les actions que Josué a prises. Donc, premier point, les défis auxquels Josué a fait face. Rappelons-nous du portrait global ici. Josué a premièrement commencé sa campagne militaire en frappant cette cité de Jéricho. Nous nous rappelons cela au chapitre 6. Jéricho était au centre de la terre promise. C'était la première partie de cette campagne militaire. Pour utiliser l'analogie d'un boxeur qui saute sur le ring, Josué s'en est allé à la section du milieu. C'est comme le boxeur qui commence, il fait donne des coups corps à corps dans le milieu du corps. Donc, trois coups rapides, trois jabs au milieu de Canaan, la cité de Jéricho, la cité de Haï et la cité de Gabaon. Ces trois cités sont détruites. C'est ainsi que Josué a débuté la campagne centrale. Ensuite, Josué a commencé une campagne au sud. C'est la deuxième campagne. Les quelques 10 derniers versets de Josué, 10, des versets 28 à 39, nous mentionnent qu'il y a 6 autres villes qui sont attaquées, qui sont décimées. Le verset 39 nous résume le plan qui a été adopté en quelque sorte. Il l'a pris, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée et vouèrent à l'interdit toute personne qui s'y trouvait, sans laisser aucun rescapé. Ensuite, nous voyons au verset 40 combien cela était étendu. Josué frappa tout le pays. C'est la deuxième partie majeure de la campagne militaire, celle du sud. Ainsi, chacune de ces batailles était autorisée par Dieu lui-même. Josué est obéissant au Seigneur. Après ces campagnes couronnées de succès, la campagne la centrale, celle du sud, Josué maintenant débute une campagne au nord. Et c'est la dernière campagne militaire et elle a duré environ 5 et 7 ans. Lorsque nous ouvrons avec Josué 11, nous pourrions dire que cette campagne du nord est sur le point de débuter. Et comme la campagne du sud, comme vous pouvez le remarquer d'entrée de jeu, que Josué n'est pas l'agresseur. Ce sont les Cananéens qui ont commencé à montrer leurs muscles. Comme nous le voyons au verset 1, à cette nouvelle, Yabin, roi de Hatsor. Donc, certains pensent que cela était durant la période de temps appelée l'âge de bronze, où cette cité particulière de Hatsor était à son zénith, à son plus haut. Elle était située approximativement 15 kilomètres au nord de la mer de Kinnaroth, qui était en fait la mer de Galilée. Hatsor était un site considérable comprenant 45 000 personnes, un peu comme la population de Rouyn-Noranda. Ça semble, pour nous autres, ça semble insignifiant aujourd'hui, mais dans ce temps-là, 45 000 personnes, il n'y avait pas 7, 8 milliards de personnes sur la Terre. Non? De plus, nous notons ici que le roi a eu du succès dans le recrutement. Il a recruté d'autres rois. Il a reçu le support de beaucoup d'autres rois selon les versets 2 et 3. Il est mentionné 3 autres rois de différents groupes ethniques, de différentes nations qui nous sont rapportés. Qu'est-ce que Josué veut nous dire ici? En fait, si vous poursuivez la lecture de tout le chapitre, beaucoup plus de choses nous sont dites concernant les ennemis que sur la guerre elle-même. 5 versets. Dr. Dale Ralph Davis nous dit concernant cela dans son commentaire, « Nous devons porter une attention particulière au verset 1 à 5 du chapitre 11, pour un moment. » Il pose une question. « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'auteur a dépensé tant d'encre et erré dans tant de détails particuliers? Pourquoi est-il si spécifique ici concernant ces rois et ces endroits et ces groupes ethniques et ces nations qui se tiennent en opposition à Israël? » Eh bien, c'est aussi simple que nous sommes souvent impressionnés par la grandeur de grands stades, de grandes foules. On est impressionnés par tout ce qui est grand, tout ce qui est big. Ça nous impressionne, ça nous marque. Et ces 5 versets sont pour nous impressionner. Voyez combien immense, énorme est l'armée qui est devant nous. » Le verset 4 semble pointer vers cela. « Ils sortirent, eux et toute leur armée avec eux, formant un peuple en quantité aussi innombrable que le sable sur le bord de la mer. Et les chevaux et les chars étaient très nombreux. » Alors, ce portrait démontre vraiment l'immensité de toute l'armée qui était devant eux. Mais quel est le but? Josué fait face à une force, une puissance qui est écrasante. Et si on se met à la place de Josué, on peut s'imaginer un peu le portrait. Là, quand une mer de monde, et c'est pas une du monde avec des bâtons, c'est une armée avec des soldats, puis des chars et des chevaux. Pensez à un insecte comme un moustique faisant face à un éléphant. Il n'y a aucune mesure de victoire possible pour le moustique contre l'éléphant. Eh bien, c'est ce que nous voyons ici. Du côté humain des choses, Josué et ses hommes ne font pas le poids. Et à la vue de tout cet arsenal, les hommes militaires, les soldats, avec les chevaux et avec les chars en plus, le conseil que nous pourrions lui donner, cours et cours et cours vite. Mais pour rendre les choses encore pires, Josué n'est pas seulement en dénombre ici, mais l'ennemi a une machine de guerre très avancée. Comme nous le dit le verset 4, ils ont des chevaux et des chars, et ces chars étaient équipés. Peut-être avez-vous déjà vu le film... Je pense à Hercule et il y en a d'autres films de Le Centurion ou en tout cas des films de Romains qu'on voit. Après les roues de chars, il y a comme des lames qui sortent de ce côté. Alors, ces chars-là étaient équipés d'instruments comme cela. C'est un peu comme une tondeuse de côté ici, avec la lame qui sort. Ça leur donnait beaucoup de vitesse et de manœuvrabilité. L'historien juif Josephus mentionne que la coalition, tous les rois qui étaient rassemblés avec Hatsor Yabin, roi de Hatsor, comprenaient 300 000 hommes à pied. Ça veut dire des soldats avec leur armure, leur épée, leur javelot, leur lance, 10 000 chevaux et 20 000 chars de guerre. Ça devait être vraiment une vue qui était terrifiante. Si on peut mettre dans la perspective, des fois on regarde un film, puis il nous montre vraiment une multitude, une mer humaine de soldats et de chars. Imagine-toi que tu es sur un champ de bataille, puis que tu as ça 300 000 hommes devant toi. On est 45 000 ici à Rouyn-Noranda, mais à peu près 8 fois la population de Rouyn-Noranda placée devant toi sur un terrain, puis qui s'en viennent. Donc, c'était notre premier point. Le deuxième point, le réconfort que Josué a reçu. Est-ce que Josué avait peur? Est-ce qu'il était dans la crainte? Est-ce qu'il a eu une expérience que nous pouvons caractériser comme une attaque de panique alors que ses officiers lui rapportent les forces de l'ennemi? Pensez-vous qu'il pensait à s'enfuir? Eh bien, s'il est humain, certainement qu'il y pensait. S'il y a une chose que les humains ont en commun, c'est ceci. La peur fait partie de nous tous profondément et particulièrement lorsque nous nous trouvons dans une situation et dans des circonstances non seulement qui sont extrêmement difficiles, mais que nous n'avons pas de possibilité de passer à travers. Et c'est là que nous sommes vraiment apeurés, effrayés, craintifs. On va employer le mot peur, crainte, à peu près alternativement dans le même sens durant la prédication. Josué n'avait aucune chance. C'est sans espoir, ce serait insensé de sauter sur le champ de bataille. Maintenant, avez-vous déjà remarqué ceci dans nos lectures de la Bible? Dieu semble amener son peuple dans des situations qui sont très semblables. Est-ce que c'est intentionnellement, par dessein? Eh bien, vous devez le croire. Si vous croyez réellement que Dieu est en contrôle de tout, et on dit que Dieu est souverainement, est souverain sur tout, ceci est intentionnel, c'est dans son dessein. Dieu a tout placé comme un casse-tête. Au tout début, lorsque tout est mêlé, nous ne savons pas où les morceaux vont. Mais Dieu sait de toute éternité comment cela va s'agencer ensemble. Il n'y a pas de surprise avec Dieu. On peut pas prendre Dieu par surprise d'aucune façon. Dieu veut que Josué et les hommes d'Israël, il veut qu'ils ressentent quelque chose de leur impuissance et Dieu veut que nous aussi nous ressentions cela. C'est pourquoi il nous est donné tant de détails et de particularités. Mais quelqu'un pourrait demander, est-ce que Dieu ne sait pas que nous sommes craintifs, que nous sommes peureux, que nous sommes apeurés dans des situations, que cela va affecter notre pression sanguine? Eh bien, certainement qu'il le sait. Il y a quelque chose de plus important que notre pression sanguine et notre niveau de confort. Dieu veut que nous croissions, grandissions, maturions, maturer, grandir, croître. Et nous le faisons à travers des épreuves, des difficultés, beaucoup plus que nous le réalisons. Quelqu'un a mentionné, les épreuves et les afflictions sont les moyens majeurs dont Dieu utilise dans notre sanctification. Et si on s'arrête et on réfléchit, certainement que c'est vrai à quelque part. Des situations et des circonstances comme celles-ci peuvent construire, ériger, fortifier notre foi et peut faire de nous de meilleurs chrétiens, de meilleurs maris, de meilleurs pères, de meilleurs célibataires. Croyez-le ou non, ces opportunités ont un merveilleux potentiel. Et ici, il y a quelque chose à certainement nous rappeler, frères et sœurs, concernant nous-mêmes. Nous pensons tous que nous sommes plus sages et plus forts que nous le sommes réellement. Et dans notre orgueil, nous nous exaltons nous-mêmes. On se pète les bretelles. Des fois, on s'en fait à croire un peu. Arrêtez-vous, puis mettez-vous à réfléchir, rentrez un peu en dedans de vous-même. Moi-même, je me pète les bretelles. Tu sais, ben, dans une situation, ben, c'est pas si pire. Moi, je suis pas sorti si pire que ça. Tu sais, nous minimisons Dieu. Quelquefois, nous pensons même que nous sommes en contrôle de nos foyers, de nos vies. Mais Dieu veut nous rappeler que nous ne sommes pas en contrôle. C'est pourquoi Dieu nous amène dans des circonstances, des situations qui sont trop grandes pour nous. Un peu comme quelqu'un qui embarque dans des souliers, les souliers sont trop grands pour lui. Des situations que nous ne pouvons pas contrôler, qui nous surpassent, qui nous dépassent. Il veut que nous voyons et ressentons combien petits nous sommes réellement et que nous réalisions, que nous voyons combien grand il est réellement et qui est réellement en contrôle. Et ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est en contrôle. La bonne chose ici est que Josué a déjà vécu cela auparavant. Ce n'est pas la première fois que Josué se soit retrouvé dans une situation qui est trop grande à manœuvrer pour des mains humaines, pour la sagesse humaine. On se rappellera qu'il s'est tenu devant le Jourdain en saison de crue dans Josué 3 et Josué 4. Et c'était là une situation impossible. Il avait besoin de la puissance de Dieu, il avait besoin d'un miracle. Il s'est tenu aussi devant cette imposante cité de Jéricho, vous vous rappellerez, avec des forteresses impressionnantes et impénétrables. Il savait qu'il lui était impossible d'abattre ses murs avec les forces humaines, les batteries de campagne. Une autre situation impossible, mais Dieu encore intervint au moyen d'un miracle. Et ici, dans Josué 11, Josué fait face à une autre situation qui est impossible. Maintenant, la bonne chose est qu'il a déjà été dans cette situation avant. Mais il y a un autre côté, un autre désavantage à une situation comme celle-ci. Le diable peut souvent compter quelques points. Nous sommes vulnérables à la peur et à l'incrédulité. Satan aime lancer ses dards pour nous démoraliser, nous paralyser. Il ne peut nous empêcher d'aller au ciel, mais il le sait. Mais il peut certainement retarder, gêner notre progression, notre marche, n'est-ce pas? Il peut nous voler notre joie et nous amener sous un nuage de découragement. Il peut même faire ceci. Il peut prendre avantage de notre péché rémanent. Ainsi, nous commençons à nous plaindre. Nous commençons à nous sentir diminués et encore pire, nous pouvons commencer à entretenir des pensées dures sur Dieu. Nous le voyons un peu avec les yeux d'Asaph, comme nous avons vu avec dans le psaume 73. Nous le voyons dans ce qui est arrivé un peu avec Job, lorsqu'on a vu avec Marcel, quand on a étudié le livre de Job. Nous le voyons avec les disciples du Seigneur lorsqu'ils se sont retrouvés au milieu de la tempête sur la mer de Galilée. On peut se rappeler ce qu'ils ont dit à Jésus, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Vous voyez une situation comme celle-ci, dans laquelle Josué se trouve, la peur peut facilement s'immiscer dans le siège du conducteur. Nous pouvons commencer à prendre des choses, à penser des choses plutôt, à dire des choses qui sont péchées, coupables et terriblement douloureuses. Mais alors que Josué commençait à lutter avec ces sortes de doutes, de peurs, et que cela commençait à bouillonner à la surface de sa conscience, vous pouvez noter que Dieu vient à la rescousse et apaise ses peurs en apportant réconfort dans son cœur et dans sa pensée. Et dans le réconfort qui lui est donné, il y a trois choses ici à noter concernant ce réconfort. Premièrement, Dieu lui donne un commandement pour calmer son cœur anxieux. Au verset 16, il dit « Ne les crains pas ». Cette exhortation, si vous vous rappelez, dans le livre de Josué, nous est familière. On l'a déjà vu. Combien de fois? Cette fois-ci, c'est la quatrième. Dans Josué 1, 9, avant la traversée du Jourdain, il lui a été dit, ne crains pas. Dans Josué 8, dans la défaite, la bataille d'Aï, où il y a eu toutes sortes de cette douleur, cette humiliation. Dans Josué 10, avec cette coalition des cinq rois, les cinq rois amoréens du sud. Et ici, Josué fait face à une autre crise, une armée gigantesque. Ainsi, vous pouvez comprendre pourquoi il pouvait avoir peur. Donc, ces mots étaient très à propos dans cette situation. Qu'est-ce que cela nous dit à nous? Cela a rapport avec la valeur de la répétition. Quelquefois, nous avons besoin d'entendre les choses plus qu'une fois. Savez-vous combien de fois Jésus dit à ses disciples « Ne crains pas » entre autres dans Luc 5, 10. Il est mentionné, il dit à ses disciples autour de cinq fois « La peur, la crainte nous assaillent tous. » Cela peut arriver à n'importe quel moment que ce soit, du jour, n'importe quelle heure. Josué ne craint pas, cela aidera Josué à réaliser que Dieu est en alerte face à nos peurs. Dieu connaît nos cœurs et nos pensées. Il n'est pas ignorant. Il n'est pas insensible à nos peurs. Chaque fois, dans Josué, patiemment, gracieusement, sagement, Dieu donne son commandement, ne crains pas. Et remarquez ceci, comment Dieu s'adresse à Josué. Il ne lance pas son commandement, ne crains pas. On peut facilement dire cela, nous autres, à quelqu'un, ne crains pas. Par exemple, lorsqu'on dit à quelqu'un, tu as peur de l'avion, tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'avion, il n'y a rien d'épeurant là-dedans. C'est facile de dire ça quand tu n'es pas dans les souliers de l'autre. Si on n'a pas peur d'avion, puis si on n'a pas peur des hauteurs, il est facile de dire cela à quelqu'un. Ne crains pas. Tu n'as qu'à te ressaisir, tu as juste à t'accrocher un peu, puis penser à d'autres choses. Mais ce n'est pas si simple. Et Dieu sait cela. Chaque fois que Dieu dit à Josué, ne crains pas, il donne une raison solide. Il accroche l'ancre sur une vérité, sur une réalité solide. C'est ce que Jésus fait dans le sermon sur la montagne. Il donne de solides fondations de vérité pour s'appuyer. C'est ce que Dieu fait ici avec Josué. C'est un mot de réconfort pour Josué. Ne crains pas. Deuxième, au verset 6, il lui promet la victoire, car demain, à pareille heure, et ici, on a encore une notion de jour de 24 heures, moi, je les livre tous. Cela aussi va l'aider à soulager sa peur. Dieu promet de prendre soin de lui. Il dit que nous allons gagner cette guerre. Et encore là, cela n'était pas pour Josué. Cela n'était pas nouveau plutôt pour Josué. Josué a déjà entendu cette promesse avant. Dieu avait promis qu'il lorsqu'il se tenait devant le Jourdain, qu'il traverserait à sec. Et Dieu a tenu sa promesse. À Jéricho, Dieu lui avait promis qu'il conquérerait cette cité. Ne crains pas encore là. Et Dieu a tenu promesse. Ainsi, si Josué a été momentanément troublé, inquiet ou agité dans son âme par la peur, à ce point-ci, par la vue de toute cette armée qui avait en avant de lui, de tous ces chars levés contre lui, sa peur a été tôt fait d'être supplantée par une foi renouvelée active alors qu'il a pris sur lui les promesses de Dieu. Un Dieu qui ne peut mentir. Dieu a réconforté son serviteur Josué de trois manières, en lui donnant un commandement clair, ne crains pas, en lui donnant une promesse de victoire décisive. Tu ne perdras pas, Josué, tu vas gagner. Et troisièmement, il y a une autre chose que Dieu a dit ici à Josué pour l'encourager, et ce n'est pas aussi clair que les deux premiers. Mais nous pouvons croire que c'est un mot d'encouragement. C'est un mot d'encouragement de suffisance divine. Le verset 6. « Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars par le feu. » Pourquoi est-ce que Dieu dit cela à Josué, dit à Josué de faire cela? À première vue, cela pourrait sembler être une stratégie de bataille. En coupant les nerfs des jarrets des chevaux, cela les rendrait inutiles dans la bataille, et en brûlant les chars, cela les rendrait inutiles aussi. Mais voici la question que nous pouvons nous poser. Pourquoi ne pas simplement confisquer les chevaux et les chars? Est-ce que cela n'aurait pas été plus simple? Est-ce que cela n'aurait pas donné à Josué et les hommes d'Israël un avantage militaire décisif? Est-ce que cela n'aurait pas pu les aider dans des batailles et des guerres subséquentes avec des chevaux et des chars? Pourquoi ne pas faire bon usage de ces chevaux et de ces chars? Pourquoi mutiler les chevaux et les rendre inutiles? Pourquoi détruire les chars? Cela semble n'avoir aucun sens. Mais rappelez-vous ceci. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et rappelons-nous, qui combat dans cette guerre? En fin de compte, ultimement, c'est Dieu qui combat. C'est clair, comme nous l'avons vu dans Josué 6, Jéricho et Haï et Gabaon, Dieu combattait pour eux. Dieu faisait la guerre. Ce qui veut dire que le succès dépend ultimement sur Dieu. Josué et les hommes d'Israël doivent faire confiance à Dieu chaque fois qu'ils sautent sur le champ de bataille. Ils auraient été insensés. Il aurait été insensé plutôt de faire confiance ou de compter sur quoi que ce soit d'autre. Et il y a la tentation de mettre notre confiance dans les chars et les chevaux. Ce serait là le danger, certainement, de mettre leur confiance en autre chose qu'en Dieu. Le commentateur Jean Calvin mentionne, concernant ce péricope, il dit, « Les équipements voyants, ce qu'on voit, prétentieux, tape à l'œil, en référence aux chars, ils éblouissent les yeux et enivrent l'esprit, la pensée avec confiance. » Le psaume 20, verset 8, il mentionne « Les uns, c'est à leurs chars qu'ils font confiance, les autres, c'est à leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. » Dieu délibérément a dit à Josué et à Israël, sur un champ de bataille désavantagé sévèrement, ils mettront leur confiance en lui. Non pas en leurs capacités, leurs aptitudes et leurs armes. Dieu veut qu'ils sachent, je suis un Dieu tout suffisant. Vous m'avez et c'est tout ce dont vous avez besoin. On a vu les défis auxquels Josué fait face, le réconfort que Josué a reçu. Le troisième point, les actions que Josué a prises. Vivre par la foi dans les promesses de Dieu ne signifie pas que nous ne faisons rien. Ça ne nous rend pas oisifs. Vous croyez en la souveraineté de Dieu, c'est pourquoi nous devons prier et faire confiance à Dieu, certainement, mais nous devons œuvrer, travailler. C'est un peu comme dans l'évangélisation, si on croit que Dieu est souverain, ça donne quoi d'évangéliser? Ils vont, les inconvertis, ceux que Dieu a appelés de toute éternité, vont venir à Dieu de toute façon. Mais Dieu a déterminé, c'est Dieu qui a décrété toutes choses, mais il a décrété aussi les moyens pour. Alors, le moyen, c'est l'évangélisation par lequel on proclame l'Évangile. On ne sait pas qui va venir au Seigneur, mais le Seigneur nous a demandé de proclamer l'Évangile. C'est lui qui attire, c'est par son esprit. Josué doit faire confiance à l'Éternel. C'est là où doit être sa confiance. Il doit tenir ferme, saisir ses promesses par la foi. Mais Josué doit agir. Il doit sauter sur le champ de bataille et combattre. Et c'est ce qu'il fait. Au verset 9, Josué les traita comme l'Éternel le lui avait dit. Et le commentateur presbytérien réformé James Montgomery Boyce dit que c'est là le passage dans Josué, dans tout Josué, qui est le plus important. Josué a obéi. C'est l'histoire de Josué. Il obéit, quel que soit ce que Dieu commande. Josué a obéi. Il obéit, il était un serviteur obéissant. Il aurait pu écrire cela, faire confiance et obéir. Josué était convaincu de cela. C'est pourquoi qu'il s'en est allé de victoire en victoire. Le verset 7, verset 12 et le verset 15. Il exerce l'obéissance. Il obéit au commandement de Dieu. En ce qui a trait à la guerre elle-même, encore très peu nous est-il dit ici, quelques brides seulement. C'est une attaque surprise près des eaux de Merom, au verset 7, où il nous est dit « Il arriva subitement ». C'était une embuscade comme à Gabaon, qu'on a vu dans Josué 10. Et ici encore, la victoire a été convaincante et décisive. Ils ont éradié l'ennemi. Il nous est dit ça au verset 10 et 11. C'est la troisième ville qui est brûlée dans le livre de Josué. Seulement trois villes ont été complètement brûlées. Toutes de grandes cités, Jéricho, Haï et Hatsor. Une dernière chose à mentionner concernant cette bataille finale, il n'y a aucune mention d'un miracle extraordinaire ici. Pas de pierre de grêle tombée du ciel, comme on a vu la dernière fois au chapitre 10. Le soleil ne s'est pas arrêté. Et il est tout à fait possible que les miracles spéciaux ont cessé. Il est évident que Dieu est à l'œuvre ici. L'emphase est mise sur les agissements de Dieu. Josué a remporté cette grande bataille. Donc, ce sont là les trois points qui ressortent de cette prédication. Les défis auxquels Josué a fait face, le réconfort que Josué a reçu et les actions que Josué a prises. Brièvement, en conclusion, trois applications simples. La première, ne voyons-nous pas la gloire de Dieu démontrée se reflétant en toile de fond de la misère et de la cruauté humaine? La plupart des gens qui lisent ces chapitres, les chapitres de Josué 6 à 11, sont déconcertés, ils sont dérangés par les détails sanglants. Ce sont des chapitres qui sont sanguinaires. Nous voyons des gens massacrés par l'épée, des cités et des chars brûlés à néant, des rois morts, quelquefois leurs corps sont pendus aux arbres, les nerfs des jarrets des chevaux sont coupés avec des couteaux ou des épées. Ces choses sont plutôt barbares, horribles. Et en tant que chrétiens, nous pourrions être tentés de reculer, de sauter ces chapitres et de se sentir quelque peu embarrassé de lire notre Bible. Mais tout ceci est la vraie vie, n'est-ce pas? Des choses comme celle-là arrivent à tous les jours à travers le monde. La guerre peut se déguiser pour paraître bien. En anglais, le mot « pretty » ou « nice » peut paraître enjolivé, peut paraître beau, se montrer sous un beau jour. Peu importe ce que vous le vouliez ou pas. La Bible parle de la vraie vie. Et la vraie vie peut être laide et en pagaille, en désordre. Tôt ou tard, nous sommes tous confrontés avec le côté laid ou désordonné de la vie. Les mariages peuvent faire naufrage par le divorce. Et ça, on en voit en quantité industrielle. Les enfants peuvent être tués dans des accidents de voiture. Nous pouvons être diagnostiqués de maladies chroniques. Nous vivons dans un monde maudit par le péché. Ici, frères et sœurs, nous n'avons pas le réalisme de la Bible. Nous pourrions nous demander, n'est-ce pas, où est Dieu dans tout cela? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il se soucie vraiment? Réellement, nous pouvons être reconnaissants que nos Bibles nous disent les vraies histoires de la vie. La Bible nous dit concernant les choses laides qui arrivent dans ce monde maudit par le péché. Certainement que les auteurs de la Bible auraient pu simplement ne pas nous dire toutes ces choses-là. Mais la Bible nous donne un message d'espérance. Au milieu du sang versé, de ces actes de guerre horribles, le livre de Josué nous laisse voir Dieu de près. On a comme avec des longues vues géantes, on a comme un scoop directement sur Dieu. On voit Dieu de près. Josué ne présente pas un Dieu qui est distant, qui est loin. qui n'est pas impliqué ou qui ne se soucie pas. Combien cela serait dépressif. Combien la vie serait désespérante si nous ne savions pas que Dieu est là et que Dieu prend soin de son peuple. Un peu comme les mentalités, comme certaines théories qui disent que Dieu a créé le monde puis laisse le monde aller comme. Josué nous dit que Dieu est ici et qu'il se soucie, qu'il prend soin. Chaque fois nous entendons « Josué ne craint pas », nous dit que Dieu se soucie, qu'il prend soin. Au milieu des laideurs sanguinaires de Josué, des chapitres 6 à 11, nous voyons un Dieu qui se soucie, qui est fidèle et qui est tout suffisant, qui prend soin de son peuple. Le livre de Josué ne devrait pas faire en sorte de douter de la bonté de Dieu. Ce n'est qu'une confirmation de la bonté de Dieu. Deuxième point de réflexion, dans ce chapitre et dans beaucoup d'autres, nous voyons pourquoi Dieu amène son peuple dans des situations difficiles. Nous l'avons mentionné auparavant, vous avez remarqué combien Dieu amène son peuple dans ces circonstances, des circonstances qui sont difficiles, qui sont pénibles, qui sont ardues. Nous voyons cela avec Moïse, dès qu'il sort de l'Égypte, il se retrouve devant la mer Rouge, dans le désert. Vous voyez cela avec Josué, où plusieurs fois nous l'avons fait ressortir. Vous le voyez avec David dans les psaumes, où il crie à Dieu pour la délivrance, alors qu'il se retrouve dans des circonstances difficiles. Lisez toutes ces choses que l'apôtre Paul a souffert dans 2 Corinthiens 11, la famine, les naufrages, diverses expériences qui l'ont mené tout près de la mort, battu par les Juifs plusieurs fois, et même à un certain moment laissé pour mort. Nous pouvons aller en dehors de la Bible et lire l'histoire de l'Église. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de l'Église en bas le mercredi avec Marcel, les puritains et les épreuves qu'ils ont endurées des deux côtés de l'Atlantique. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu souffre tant? Et quelquefois, cela est vrai. Le peuple de Dieu souffre même plus. Eh bien, une raison est certainement pour accroître notre foi et de cesser de la mettre en l'homme. De ne pas mettre notre confiance dans les chevaux ou dans les chars, mais en Dieu et en Dieu seul. Dieu veut que nous le voyions, lui, et nous le voyons le mieux au milieu de nos épreuves. Troisième point de réflexion, l'étape de vie de Josué dans l'histoire, en fait le récit de la vie de Josué dans l'histoire, est ici pour nous aider, frères et sœurs, à combattre nos plus grandes batailles ou luttes en tant que chrétiens. Josué a combattu beaucoup de batailles. Il a tué 31 rois, au moins 31 batailles. Il est vrai qu'il y avait des rois qui étaient titulaires de plusieurs pays, mais... Et ceci, dans Josué 11, est sans contredit la plus grande bataille en termes de grandeur, de nombre des troupes qui sont opposées contre lui et contre le peuple d'Israël ici. Mais il nous est permis d'évoquer que la plus grande bataille de Josué a pris place sur le flanc de son propre cœur. Mais quelle est cette bataille? Eh bien, c'est de vivre par la foi et non pas par la peur, par la crainte. Quatre fois, nous avons entendu cela, n'est-ce pas? Quatre fois, l'ennemi à l'œuvre dans toute son horreur, dans Josué 1, 8, 10 et 11. C'est la plus grande bataille que nous livrons, la plus grande de tous. C'est la bataille de la foi. De vivre par la foi et non par la peur, par la crainte. Nous menons une bataille constante contre cette peur et cette crainte. Et il y a beaucoup de choses à avoir peur. En fait, le plus longtemps que nous vivons sur Terre, plus nous sommes âgés en âge, plus vous savez concernant la vie, il semble y avoir plus de choses à avoir peur. Nous l'avons dit avant, il y a au moins 100 commandements. Certains commentateurs disent qu'il y a au moins 100. Il y en a qui disent qu'il y en a au moins 300. Où c'est mentionné « ne crains pas ». Et c'est beaucoup. C'est de beaucoup plus que « ne commets pas d'adultère ». « Ne commets pas de mensonge, ne commets pas de vol, ne crains pas. » Lorsque nous lisons le livre de Josué, Josué ici n'est pas un petit poussin, il n'est pas de toute première jeunesse, ce n'est pas un jeune blanc-bec. Il est dans la force de l'âge ici, Josué. Et il est mis en garde plus que tout autre avant lui, que tout autre serviteur avant lui. « Ne crains pas. » Comment combattons-nous la peur, la crainte? Eh bien, je pense que Josué nous aide. Nous y avons ici une stratégie. Premièrement, nous devons obéir le commandement de ne pas craindre. Ne crains pas. C'est un commandement que Dieu donne. Ce qui signifie que nous devons prendre au sérieux la crainte, la peur. C'est quelque chose qui existe vraiment. La crainte comme un cancer, il peut se répandre et affecter toute notre vie. Prenez-le sérieusement. Prenez le tranchant aiguisé. Vous savez la lame d'un couteau, là, il y a un côté qui est emmanché de même, en pointu, là. Ça coupe beaucoup. Prenez ce tranchant aiguisé de ce commandement sur votre conscience. Ne crains pas. Si ce n'est pas un enjeu sérieux, pourquoi Dieu l'a-t-il commandé à Josué 4 fois? Pourquoi est-ce que Dieu commande à Josué 4 fois? Ne crains pas. Et pourtant, Josué, c'était le commandant physique sur terre de l'armée d'Israël. C'est lui qui avait reçu le mandat de conquérir toutes les nations de Canaan. Et il y en avait des nations dans Canaan. Je ne l'ai pas compté, là, mais il y en avait un moyen paquet de nations en Canaan. Et Dieu lui dit, ne crains pas. 4 fois. Donc, nous devons obéir au commandement, ne crains pas. Deuxième, en termes de combattre la crainte, accrochez-vous à la promesse. C'est ce que Dieu donne à Josué. Il donne une promesse. Et il y a beaucoup de promesses dans notre Bible, dans nos Bibles. Certaines sont faites sur mesure pour ce qui est de la peur. Pensez à Matthieu 6, 24, où Jésus traite de la perspective des inquiétudes. Vous savez les inquiétudes? On a tout ça des inquiétudes, nous autres? Des inquiétudes et de l'anxiété. Dans Romains 8, dans plusieurs psaumes qui sont écrits par des hommes qui étaient dans un état de crainte. Il y en a aussi dans les prophètes, dans le livre de l'Apocalypse. Ils ont été écrits afin que les gens ne soient pas dans la crainte. Des promesses de prendre soin, des promesses de prière. Il y a beaucoup de promesses que nous pouvons prendre en avantage lorsque nous combattons contre la crainte, contre la peur. Croyez en les promesses de Dieu. Et troisièmement, pour nous aider à combattre une de nos plus grandes batailles, mettez votre confiance en Dieu et en Dieu seul. La foi en Dieu doit avoir cette exclusivité. Dieu et Dieu seul. Non pas nos chars, nos chevaux. Non pas notre compte de banque. Non pas notre plan de retraite. Ne faites pas confiance à vos richesses, aux bras de la chair, à vos parents. Et je veux dire ici... n'ont pas la confiance ultime en nos parents. Certainement, on doit faire confiance à nos parents, mais pas avoir cette confiance ultime en nos parents, en notre mari, en notre femme. Notre confiance doit être en Dieu. La foi en Dieu et en ses promesses. Si vous mettez votre confiance en quelque chose, quelque autre chose que ce soit, tôt ou tard, vous aurez des raisons de douter et d'avoir peur, d'être dans la crainte, parce que vous pouvez perdre tout votre argent, n'est-ce pas? Cela peut arriver très vite, l'effondrement de la bourse et c'est parti. Si vous mettez votre confiance en quelque chose qui pourrit, qui est sujet à la rouille, vous avez des raisons d'avoir peur. Si vous mettez votre confiance en l'homme, en vos pasteurs, vous avez des raisons d'avoir peur, parce qu'ils peuvent chuter dans le péché et qu'ils peuvent mourir. Nous sommes charnels. Nous avons tous des pieds d'argile. Seulement Dieu est immuable. Seulement Dieu qui ne change pas. Seulement Dieu peut garder toutes ses promesses. Seulement Dieu, fidèlement, peut être décrit comme grand. Nous devons mettre notre confiance en Dieu et en Dieu seul. C'est ainsi que nous combattons nos craintes, nos peurs. Si vous n'êtes pas un chrétien, laissez-moi vous dire simplement que vous avez raison d'avoir peur. En qui mettez-vous votre confiance? Vous ne la mettez pas en Dieu. Vous avez raison d'avoir peur, peur de la mort, de l'enfer, du jugement à venir. Sans Jésus-Christ en tant que votre sauveur, vous avez toutes les raisons d'avoir peur. Mais si vous avez Christ comme sauveur, vous avez toutes les raisons de ne pas avoir peur. Il promet le repos, même le repos de nos peurs et de nos craintes. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, notre Dieu. Merci pour tout ce que ta parole peut faire, Seigneur, en nous. Tout le chemin qu'elle peut, toutes les ramifications qu'elle peut prendre en nous, Seigneur, pour nous aider à marcher devant toi, Seigneur, sans crainte, Seigneur Dieu, fidèlement, en ayant le cœur et la pensée centrés sur ta personne, comme il nous est dit dans Hébreux, Seigneur, avoir les regards posés sur Jésus qui est l'auteur de notre foi. Ne pas perdre cela de vue, Seigneur, ainsi que dans tes promesses que tu as en réserve pour nous. Seigneur, nous bénissons cette parole, Seigneur, et aide-nous à la conserver tout près de notre cœur, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.